Les impressions sont un peu mitigées quand même pour le moment, parce que les discussions traînent et vous savez que je viens de l'Afrique, donc pour les Africains, c'est l'adaptation et les financements sur lesquels on veut insister et ça, bon, ça traîne un peu encore. Et puis, vous savez, sur le plan des populations, pour lutter contre les changements climatiques, nous, on met beaucoup l'accent sur les énergies renouvelables. Je travaille un peu sur ce domaine-là. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait vraiment des financements et des initiatives qui soient bien mieux soutenues pour les énergies renouvelables en Afrique, quoi. Donc,
Vous parlez d'énergie renouvelable, vous militez peut-être pour que l'énergie nucléaire puisse être promue en Afrique?
Non, mais l'énergie nucléaire, non, on parle du solaire, de l'énergie qui soit disponible pour les populations les plus défavorisées. Donc on veut commencer par cela, parce qu'on dit que il y a plus de 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont même pas accès à l'énergie. Et donc on voudrait que ceux-là, ils aient quand même accès aux services énergétiques pour pouvoir bénéficier et de l'énergie et pouvoir mener des activités génératrices de revenus qui vont les aider à lutter contre la pauvreté et en même temps lutter contre les changements climatiques.
En France, quasiment plus de 70% de l'énergie consommée par les Français est issue du nucléaire. Pourquoi ne pas expérimenter cette énergie en Afrique?
L'énergie nucléaire, même en France, ils sont en train de vouloir retirer l'énergie nucléaire, comme le Conseil, enfin, dans le cadre du développement durable. C'est une énergie déjà, la gestion est assez dangereuse. Que ce soit l'énergie, enfin la fabrication et surtout les déchets et autres, c'est dangereux. Donc on ne peut pas de prime abord souhaiter cela. S'il y a une alternative, si on peut aller vers d'autres énergies qui peuvent satisfaire les besoins, ben, tant mieux. Hein? Je pense que c'est mieux, mais bon.
Et les autres énergies alternatives, vous pensez au solaire, à l'éolien, par exemple?
Oui, il y a l'énergie solaire, il y a surtout le solaire, parce que l'Afrique dispose d'une bonne radiation. Donc l'énergie solaire, et puis bon, à côté, il y a les autres également. Donc c'est tout ça, toutes ces énergies renouvelables enfin, on fait la promotion de ces énergies-là.
Est-ce que vous ne trouvez pas quand même dommage que les Africains ne profitent pas de ces ressources comme le soleil, le vent, justement pour se procurer de l'énergie?
Ah oui, c'est dommage parce qu'on a tellement de potentialités, mais l'exploitation de cette potentialité-là est très minime. Mais il faut quand même le dire, ces dernières années, depuis 2, 3 ans, il y a quand même un regain d'attention. Les gouvernements sont en train de prendre conscience.
Est-ce que ce ne sont pas des promesses assez vaines?
Non, ce n'est pas des promesses vaines. Il y a des centrales qui viennent d'être inaugurées au
Vous pensez à la
Sénégal.
Côte d'Ivoire?
Oui, au Sénégal, au Burkina, et puis il y a d'autres pays, bon, le Maroc, le Ghana. Donc il y a un fourmillement là, un peu partout en Afrique, sur le plan du solaire, qui bon, augure de bons résultats, j'espère.
Donc l'avenir du nucléaire en Afrique, vous n'y croyez pas?
Je ne le souhaite pas pour les Africains, mais bon, c'est pas. nous, on est des observateurs, donc on a du mal à décider. Mais quand même, les citoyens ont leur mot à dire, même si on a besoin d'énergie. Et il faut quand même faire la part des choses, quoi. On a quand même l'opportunité d'avoir un développement qui ne soit pas conforme au développement qui a mené à la catastrophe pour laquelle on est ici. Donc il faut essayer quand même essayer d'autres alternatives moins polluantes, moins dangereuses, qui peuvent également faire l'affaire.
Vous travaillez donc pour une ONG dans le domaine de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous résumer les actions, les missions dévolues à votre ONG ?
Ben justement, nous, ce qu'on souhaite, c'est une résilience des populations face au changement climatique et leur donner les moyens de...
Vous avez des exemples précis ?
Ben oui, on a des exemples précis parce qu'on a des projets sur le terrain qu'on est en train de mener en ce moment sur le terrain et qui font des résultats et les populations sont, enfin ceux avec lesquels on travaille sont assez satisfaites, je pense, et donc c'est des choses qu'on fait. Si on n'a pas de bons résultats, on aurait fermé boutique depuis, quoi.
Et qu'est-ce que vous attendez de pratique au sortir de cette conférence internationale sur le climat ?
Ben, ce qu'on attend de pratique, c'est qu'il y ait vraiment des décisions qui permettent d'aller de l'avant. Hein? Parce que on parle de l'accord de Paris, il faut le mettre en œuvre, mais donner les moyens au pays de mettre déjà en œuvre leur... contribution.
Parlant de l'accord de Paris, beaucoup pensent que c'est un agenda théorique. Hein. Vous avez le même sentiment ?
Ben, pour le moment, c'est assez théorique, mais il faut vraiment se dire les choses en face et puis avoir un agenda précis de mise en œuvre pour que vraiment... les choses se passent comme on le souhaite.
Il y a quand même des points pratiques qui peuvent être réalisés, non ? Par exemple, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, ce sont des points quand même que si les États s'engagent, ils peuvent les appliquer.
Oui, les États s'engagent sur les papiers, mais il faut que ce soit pratique comme vous le dites. Mais on se rend compte souvent que les émissions actuellement sont en train d'être dépassées. Donc même les 2%, on n'est pas sûr de les atteindre. Donc il faut vraiment lutter pour déjà ce qui a été signé et puis essayer d'aller au-delà, quoi.
La semaine du 13 novembre sera déterminante hein, avant la clôture des activités le 17. Vous avez une idée de l'agenda de cette semaine qui commence ?
Je suis mon agenda aussi parce que je suis observateur plus que négociateur. Mais j'espère que ça va aller dans le bon sens. Il y a beaucoup de discussions, mais c'est quand même assez difficile. Et puis, si vous voyez comme les négociations sont organisées, il y a une partie, les négociateurs, on les a mis un peu loin des observateurs. Donc, ça devient un peu de plus en plus difficile pour les observateurs d'avoir une influence sur les négociateurs qui sont là. Quoi. Donc,
vous participez quand même à des sessions, j'imagine ?
Oui, bien sûr, je participe à des sessions, je participe également à des sessions, mais en tant qu'observateur.
Vous n'avez pas un mot à dire ?
Non, les observateurs, ils ont des mots à dire, mais dans les couloirs, quoi. Donc ils parlent aux délégués dans les couloirs, ils échangent avec les négociateurs dans les couloirs pour essayer d'avoir leurs avis et puis donner également nos avis. On a fait des publications et autres qu'on distribue pour donner un peu notre point de vue qui sont souvent pris en compte également. Mais on espère que les choses vont aller dans le bon sens, mais c'est surtout avec les pays développés qu'il faut essayer de mieux négocier, quoi.
Vous ne trouvez pas cela dommage de vous mettre à l'écart des discussions, surtout de la prise de décision?
Ben oui, la société, les observateurs, la société civile font partie de la société tout court. Donc, les conséquences des changements climatiques, ce sont les populations qui vont en pâtir. Donc il faut bien que les populations ils aient leur mot à dire, les collectivités locales également, ils doivent avoir leur mot à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau des collectivités locales, surtout avec la décentralisation dans beaucoup de pays. Il faut quand même que ces collectivités aient accès, enfin, aient leur mot à dire, ils aient également accès au financement pour pouvoir réaliser les choses qu'ils peuvent faire et contribuer également à la lutte contre les changements climatiques.